Radio Ndekiluga, le magazine parlementaire.
Bonjour et bonne année à tous. Nous voici présents pour la réalisation du tout premier numéro du magazine parlementaire de Radio Ndekeluka pour cette année 2019. Il est consacré à la clôture de la deuxième session ordinaire qui a pris fin samedi dernier à Bangui. En région, nous allons nous rendre à Bakouma dans le Mbomou, théâtre de violence ces derniers temps. La loi portant organisation et fonctionnement des ONG en Centrafrique sera aussi au menu avec le député Jean-Claude Komia Sambia, vice-président de la commission population genre. Nous sommes deux au micro.
Joël Bagali
et Igor Jeske Senapaya à la partie technique. Nous avons Guy Rémy Yaménindi. Une pause et c'est parti pour le magazine parlementaire de Radio Ndekeluka. Une fois de plus, bonne année à tous. Fin le 29 décembre dernier à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire 2018.
Oui, Igor, la cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi et des diplomates en mission en République centrafricaine. Pendant 3 mois, les députés ont examiné et adopté des lois engageant la vie de la nation. Le président Moussa Laurent Gonbaba dresse le bilan.
Je puis dire sans risque de me tromper que la session qui s'achève aura été marquée d'une pierre blanche dans les annales de notre Parlement. D'abord, parce qu'ayant constaté des dysfonctionnements récurrents susceptibles de compromettre la bonne marche de l'institution, les députés ont mis en exercice la démocratie parlementaire qui a débouché sur l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale que je suis. Je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler, chers collègues députés, l'expression de ma profonde gratitude. Je mesure parfaitement la lourde mais exaltante responsabilité qui est désormais la mienne. Je compte l'assumer avec conviction et beaucoup de détermination en m'appuyant sur une grande implication des membres du bureau et bien évidemment sur le soutien sans faille de chacun d'entre vous, chers collègues. Pour ma part, je reste convaincu que la démocratie, lorsqu'elle est bien pratiquée, permet de renforcer l'unité nationale, de consolider la paix et d'impulser la dynamique du développement économique et social. C'est pour cela que je ne ménagerai aucun effort pour établir et maintenir d'excellentes relations telles que définies par la Constitution du 30 mars 2016 avec les institutions républicaines et tout particulièrement avec le pouvoir exécutif, sans pour autant faire de notre Parlement une chambre de résonance ou d'enregistrement. Je m'y employerai de toutes mes forces, guidé en cela par le seul impératif de l'intérêt national, de l'intérêt du peuple que nous représentons. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames, messieurs, une autre raison pour laquelle cette session est empreinte d'un cachet tout particulier est que pour l'une des rares fois dans l'histoire de notre jeune démocratie, le gouvernement a déposé son projet de budget dans le délai imparti par la Constitution, c'est-à-dire bien avant le 15 septembre. Nous tenons ici à l'en féliciter. Ce faisant, le gouvernement a accordé aux députés le temps nécessaire à l'examen minutieux du dit projet et la détermination conséquente de la nature, du montant et de l'affectation des ressources et des charges de l'État pour l'exercice budgétaire 2019. Nous souhaitons qu'il en soit désormais ainsi pour la bonne marche des institutions de l'État. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs, les travaux de la présente session ont été dominés par les questions sécuritaires et politiques. En effet, au cours de cette session, la loi autorisant la ratification de l'accord entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie sur la coopération militaire a été adoptée. Cet accord qui intervient au moment où notre pays peine à endiguer la vague d'insécurité qui le mine en certaines parties est destiné à lancer avec notre partenaire russe les possibilités d'une coopération agissante en matière de défense et de sécurité, appuyant ainsi les efforts déjà entrepris par d'autres partenaires. Il importe de mentionner une autre loi liée à la question sécuritaire qui a été adoptée au cours de cette même session. C'est la loi de programmation militaire 2019-2023. Cette loi, qui vient après celle de 2009-2013 et permet à notre pays d'assurer sa sécurité nationale après le retour à l'ordre constitutionnel par la réforme du secteur de sécurité, la certification des forces armées centrafricaines par l'EUTM et la Fédération de Russie ainsi que par leur équipement sur le budget de l'État.
Cette deuxième session ordinaire a été aussi marquée par l'adoption de plusieurs projets de loi, la ratification des conventions internationales et l'interpellation du gouvernement sur la situation sécuritaire du pays.
Elle a aussi été marquée par la destitution de l'ancien président Abdoukarine Mekassoua, le décès de la députée Nadia Beya de Bimbo 4 et de Eugénie Yarafa, secrétaire général de l'Assemblée nationale, le président Laurent Gonbaba.
Outre ces textes, la représentation nationale a, dans le cadre de sa mission de contrôle de l'action du gouvernement, procédé à deux interpellations de celui-ci. La première, qui a eu lieu le 21 novembre 2018, a porté sur la situation sécuritaire suite à la recrudescence des attaques armées dans l'arrière-pays et la prolongation du mandat de la MINUSCA. La deuxième a eu lieu le 12 décembre et a porté sur l'initiative de paix de l'Union africaine, autrement dit la feuille de route pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Ces deux interpellations ont permis à l'Assemblée nationale de se faire une idée plus claire de l'évolution de la situation sécuritaire et des enjeux sur l'initiative de l'Union africaine sur la paix et la réconciliation nationale. À l'issue de ces interpellations, ainsi que de l'audition du panel sur l'initiative de l'Union africaine, nous avons publié deux déclarations. Dans un premier temps, nous avons lancé le 23 novembre un cri d'alarme. Il s'agit d'une déclaration par laquelle les élus de la nation ont, en dépit de leur diversité, exprimé d'une même voix un appel pressant au comité de sanctions et aux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que l'embargo sur les armes et munitions qui frappent si injustement les forces armées centrafricaines, désormais réformées, soit levé. Que le mandat de la MINUSCA soit renouvelé et étendu à la protection effective de la population civile conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Que l'initiative de l'Union africaine soit appuyée par la communauté internationale en vue de ramener la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Ce cri d'alarme a été lancé car, il faut qu'on se le dise, la population centrafricaine n'en peut plus de vivre ce cauchemar de massacres à grande échelle, d'incendies de villages, de destruction de biens. Jusqu'à quand continuerons-nous de subir de tels drames? C'est le lieu ici de saluer les efforts accomplis par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant des institutions, le professeur Faustin Archange Touadéra et le gouvernement que dirige le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Simplice Mathieu Sarangi, pour former, équiper et déployer progressivement des éléments des forces armées centrafricaines sur le territoire national. Cela constitue le gage d'un retour progressif de la paix, de la sécurité et du renforcement de l'autorité de l'État. Je voudrais également apprécier à sa juste valeur la contribution inestimable de l'EITN, de la coopération militaire russe et de la MINUSCA, qui ne ménage aucun effort pour rendre opérationnelles les forces armées centrafricaines, la gendarmerie et la police. À tous, j'exprime le sentiment de profonde gratitude du peuple centrafricain que nous avons l'honneur et le privilège de représenter.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Mettons le cap sur les villes de province.
Oui, Jean-Eudes, nous restons cette semaine exclusivement dans la sous-préfecture de Bakouma, dans le Mbomo, en proie à l'insécurité grandissante depuis fin décembre 2018.
Oui, Igor, cette localité a été envahie par les bandes armées du FPRC de Abdoulaye Hissène. La population est dans une situation humanitaire déplorable. Le député de Bakouma, Dieudonné Gabin Mboli Foifele, lance un appel au gouvernement et à la MINUSCA de voler au secours de la population en détresse.
Suite à mon appel lancé au gouvernement et à la MINUSCA le 27 décembre 2018, signalant une probable attaque de la ville de Bakouma par les éléments de l'UPC d'Alindaras et des FPRC d'Abdoulaye Hissène. C'est avec beaucoup de consternation et d'indignation que j'ai appris la nouvelle d'attaque de la ville de Bakouma lundi 31 décembre 2018 à 4h30 du matin. Faisons état de plusieurs personnes tuées et blessées, des maisons d'habitation et des commerces incendiés. La population est en fuite dans la brousse en ce moment. À cet effet, je réitère une fois de plus un appel présent en l'endroit du gouvernement et de la MINUSCA de tout mettre en œuvre les mesures qui s'imposent afin d'arrêter rapidement la souffrance de la population de Bakouma et de la localité environnante. J'adresse par ailleurs mes sincères condoléances aux familles éprouvé et mon soutien indéfectible aux blessés et personnes déplacées.
La situation de Bakouma est très critique actuellement. Les populations vivent dans la brousse. Et actuellement, c'est les éléments de FPRC qui contrôlent actuellement la ville. Malheureusement, le FACA a été présent sur le terrain, mais je ne sais pas ce qui se passe réellement sur le terrain.
Vous craignez une situation humanitaire dégradante?
Oui, mais quand les populations sont dans la brousse, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme nourriture? Donc je demande au gouvernement de faire très rapidement, d'aider la population, les humanitaires, d'aider rapidement. Parce qu'ils ont pillé tout l'hôpital, ils ont tout pillé, même le mousse qui est dans l'hôpital, ils ont tout pillé ça.
La loi portant organisation et fonctionnement des ONG en Centrafrique vient d'être adoptée la semaine dernière par les élus du peuple.
Oui, Igor, les Centrafricains ont aussi apprécié la ratification de ce document.
Effectivement, nous apprécions cette loi parce que si les ONG sont là pour œuvrer dans le sens humanitaire et prêter main forte à la population, c'est une bonne chose, ils sont les bienvenus. Et que cette loi sera la bienvenue parce que ceux de l'Assemblée ont bien réfléchi pour pouvoir voter ces lois.
Ce que je peux dire par là, bon, par rapport à mon constat, je ne sais pas, est-ce que ce constat est fait par tout le monde, je ne sais pas. Mais ce que je vois que les ONG ne travaillent pas en fait, dans la droiture, dans les lois qui leur ont confié de travailler. Ouais, c'est ce que je vois pas. C'est une bonne chose pour la population. Parce que tu sais bien que dans tout ce que nous avons vécu dans ces derniers temps-là, la population sud-africaine a beaucoup souffert. Donc, il faut que les ONG là, travaillent dans les normes pour aider quand même la population sud-africaine.
Oui, c'est très important dans un pays comme la République centrafricaine. Vous savez, il y a de cela longtemps que les Centrafriques souffrent en ce qui concerne les ONG qui travaillent sur le sol centrafricain. Et pour moi, cette loi-là, c'est vraiment important. C'est une innovation pour que nous puissions avoir le contrôle sur les ONG qui viennent s'installer en République centrafricaine.
Revenons maintenant vers le député Jean-Claude Komia Sambia, vice-président de la commission population genre, pour des précisions sur cette loi.
La loi portant organisation et fonctionnement des ONG en République centrafricaine n'est pas une nouvelle loi. La République centrafricaine est un pays de droit et en 2002, le Parlement jadis avait voté la loi portant organisation et fonctionnement des ONG en République centrafricaine. Or, il s'avère que au regard des événements politico-militaires que le pays a connus, cette loi a pu démontrer ses limites. Elle est devenue obsolète et pour permettre au gouvernement d'avoir une visibilité par rapport au fonctionnement de ses partenaires aujourd'hui qui sont les ONG, le gouvernement a décidé de renforcer les dispositions de cette bienveillante loi. C'est ça qui nous a permis de réexaminer, de procéder à une seconde lecture pour pouvoir introduire les nouvelles dispositions que le gouvernement a souhaité y introduire.
Selon vous, aujourd'hui, est-ce que les ONG nationales ou internationales sont liées par ce même texte ou bien il y a une différence?
Non, il n'y a pas de texte aujourd'hui. Ce n'est que la loi de 2002 qui a été révisée. Révisé et renforcé avec de nouvelles dispositions. Donc aujourd'hui, après la promulgation de cette nouvelle loi, c'est cette nouvelle loi-là qui sera imposée aux ONG comme outil de fonctionnement.
En tant que nouvelle disposition, vous pouvez donner un exemple?
Un nouvel exemple, ce que je peux donner aujourd'hui, c'est que cette loi donne aujourd'hui la possibilité aux autorités locales d'avoir un regard sur l'intervention des ONG dans leur localité. Cette nouvelle loi a apporté comme innovation, c'est que aujourd'hui, il y a cette question de cartographie des ONG qui se posent avec acuité. Donc, si une ONG aujourd'hui veut intervenir, veut prêter main forte à la République centrafricaine, mais il interviendra sur le terrain de par sa compétence, de par la cartographie que le ministère du Plan a eu à mettre en place. Donc, dorénavant, les ONG n'interviendront pas comme il se le doit, comme elles le veulent sur le terrain, mais elle ne pourra que le faire par rapport à la cartographie que le ministère du Plan a eu à mettre à leur disposition.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekiluka.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ndekiluka, émettant sur les 100.9 FM. Nous allons terminer cette émission avec la connaissance du terme plénière à l'Assemblée nationale. Retrouvons Moussa Lorongon Baba, président de l'Assemblée nationale.
Voyez-vous, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée nationale ne peut pas prendre des décisions. À l'Assemblée nationale, une décision est prise selon une forme. Alors, la forme de la prise de décision à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est qu'il faut ouvrir un débat, alors qui engage l'ensemble des députés. Et donc tous les députés prennent part à ce débat et à la fin, soit par un vote, et donc c'est ce vote qui va sanctionner le débat. Et c'est ce vote-là qui va constituer le résultat, ce vote qui va constituer la décision de l'Assemblée nationale. Et donc ce vote se fait au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. La plénière, c'est la séance qui regroupe l'ensemble des députés au cours de laquelle ils mènent des débats pour adopter une décision.
Cette rubrique met un terme à ce magazine parlementaire de la semaine. Tous nos remerciements à ceux qui l'ont suivi. C'était une présentation de Igor Jeske Senapaye.
Jean-Yves Bagali.
La gestion numérique, nous avons Kirimi Amenindi. Bonne année à tous, à la semaine prochaine. Nous disons aussi merci à l'équipe de communication de l'Assemblée nationale. Bonne